RFI. Grand reportage.
En mai 2000, après 22 ans d'occupation, les derniers chars israéliens quittaient le sud du Liban. Dans leur retrait, les soldats de Tsahal emmenaient avec eux près de 7000 Libanais. Des miliciens et leurs familles, membres de l'armée du Liban Sud, l'ALS, une milice supplétive israélienne. 19 ans plus tard, des centaines de familles vivent séparées par une frontière infranchissable. Au Liban, le sort de ses anciens collaborateurs ravive les souffrances de l'occupation. Mais certains tentent de garder le contact. Rencontre avec les proches de l'armée du Liban Sud, un grand reportage de Nicolas Feldman.
On monte sur une échelle.
N'ayez pas peur, monsieur.
Je n'ai pas peur. On monte sur une échelle sur le toit de la maison, le Bassam.
C'est l'ancienne maison.
Ça, c'est notre ancienne maison. Elle a été bombardée 3 fois. Là, vous voyez, vous aviez la chambre, elle a été détruite. Les murs sont encore par terre. Ça, ça date de l'époque où les Palestiniens et les Syriens étaient dans la région. Je devais avoir une quinzaine d'années. Là, devant nous, c'est la vallée de Mariayoun. Elle s'étend jusqu'à la frontière. Et là-bas, vous trouvez la ville de Metula. Si vous regardez, vous voyez un mur. C'est là que se trouve la clôture entre la frontière Liban-Palestine ou entre le Liban et Israël.
Donc là, on est à combien de kilomètres à peu près de la frontière là ?
7 kilomètres à peu près.
Donc on voit là, c'est derrière la montagne ?
C'est Israël.
Là, si vous regardez au sommet des montagnes, il y a des postes de l'armée israélienne. Et là-bas, au loin, c'est le plateau Golan.
Ah, et tout au fond, on voit le Golan.
Je m'appelle Bassam, je viens d'une famille modeste, une petite famille, catholique, chrétienne. La guerre a éclaté soudainement en 1975-1976 et l'État libanais nous a abandonnés. Ils ont laissé le sud du Liban, ce qu'on a appelé le Fatahland, le territoire du Fatah, sous le contrôle de Yasser Arafat et des autres organisations palestiniennes. À cette époque, dans le monde arabe, les Palestiniens n'avaient plus aucun endroit pour mener leur guerre contre Israël. Ils n'avaient plus que le sud du Liban. Et alors qu'ils combattaient Israël, ils ont fait la guerre aux Libanais. À ce moment-là, les gens ici ont commencé à porter des armes. C'était des armes de chasse, des couteaux. Moi, je vais vous dire quel était mon rôle. Au début, j'étais un simple combattant. J'avais 14 ans avec un pistolet. Il était plus grand que moi. On était là pour protéger les alentours du village.
Vous avez juste devant vous là une photo. On vous voit habillé en très militaire. Vous êtes à droite, votre compagne à gauche et au milieu, entre vous deux, on voit un jeune homme avec une tête bouclée et blond. Qui est ce jeune homme ?
C'est le
formateur. Il est israélien. Là, oui, c'est moi. Et ça, c'est le formateur avec qui j'ai fait mon premier entraînement. Et là, c'est ma femme. Ce cliché, il a été pris le jour d'un entraînement à la caserne de Mariayoun. Le jour de la fête de Mariayoun.
Elle date de quelle année, cette photo ?
C'est en 83.
83 ?
Oui.
Et donc ça, c'est avec l'armée du sud Liban, c'est ça ?
De Liban libre.
On ne connaissait rien de nos techniques militaires. Ça, c'était notre formateur. Il nous a enseigné la science militaire. On a commencé à porter les armes. Moi, j'avais 14 ans. Et avec le temps, petit à petit, on a appris à connaître les différents types d'armes, les styles de combat. On ne faisait pas qu'apprendre à tirer, mais aussi à organiser une bataille, à se cacher, à se protéger pour tirer. Moi, je voudrais aujourd'hui poser une question à ces familles victimes de massacres dans les villages chrétiens comme à Damour ou Aka. Si à cette époque, ils avaient pu recevoir l'aide des mains du diable, recevoir des armes et défendre leur village, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Est-ce qu'ils auraient refusé pour assister au massacre sans défense ? Ou est-ce qu'ils auraient pris ces armes ? Nous, on a dû faire un choix. Soit on mourait et on se considérait comme des gens honnêtes, soit on prenait un pistolet et on était considéré comme un traître. C'est ce qu'on a fait.
Le récit de Bassam et de ces Libanais persécutés dans leur village n'est qu'un point de vue de l'histoire. Tout au long de ces années d'occupation israélienne, l'ALS, cette armée du Liban Sud, armée et financée par l'État hébreu, a étendu son combat à tous les soutiens des Palestiniens, y compris aux Libanais. Ces miliciens ont imposé leur loi par la force dans le sud du pays, traquant les opposants de l'occupation, se livrant à des exactions. Les actes de torture documentés par Human Rights Watch dans la prison de Riyam, le principal centre de détention populations du Sud occupées n'en sont qu'un exemple. Anis Morsen est cofondateur de l'Association palestinienne des droits de l'homme.
Les Palestiniens ont toujours voulu être Palestiniens, toujours. Ils n'ont jamais revendiqué le contrôle du Liban. Israël borde le sud du Liban et avant le Liban, les Palestiniens combattaient Israël depuis la Jordanie. Le Liban n'est devenu un lieu de résistance qu'après le 5 juin 1967, après la défaite des régimes arabes par les Israéliens. La milice de l'armée du Liban Sud, l'ALS, n'était pas assez forte pour se défendre seule. C'est donc Israël qui l'a protégée. C'était entièrement une milice israélienne, avec des membres libanais certes, mais contrôlée à 100% par les Israéliens. Partout dans le monde, sous n'importe quelle occupation, vous trouvez des gens prêts à se battre avec l'occupant. Leur combat n'était pas dirigé uniquement contre les Palestiniens, ils se battaient aussi contre des villages libanais, parce qu'après 1982, il n'y avait plus de combattants de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP au Liban, ils avaient été évacués. Et en particulier au sud du Liban, il n'y avait plus que des Libanais avec le mouvement Hamal, puis le Hezbollah et surtout avant ça le parti communiste libanais. Donc ça a surtout été des combats entre des Libanais d'un côté et des Libanais alliés aux Israéliens de l'autre.
Le journal de France 2, 24 mai 2000.
Le dernier char israélien a quitté ce matin la zone occupée par Tsahal dans le sud du Liban. Ce retrait précipité de l'armée israélienne met dans une situation très délicate les miliciens libanais qui s'étaient rangés à ses côtés. Sur place, reportage de Charles Anderla.
Les unes après les autres, les dernières positions qu'occupait l'armée israélienne au sud Liban ont été évacuées durant la nuit. Et les convois de blindés franchissent la frontière. Les miliciens de l'ALS et leurs familles, eh bien les voici ce matin près de Tibériade. En 48 heures, ils sont devenus des réfugiés en Israël. Ils seront accueillis provisoirement dans ce camp de toile avant d'être logés dans plusieurs villes israéliennes.
Alors vous, Bassam, au moment de ce retrait israélien, qu'est-ce que vous avez fait ?
Le jour du retrait, le 23 mai 2000, je suis parti avec mes enfants et ma femme en Israël. Je suis revenu le 7 septembre 2000. Pourquoi je suis rentré ? Parce que les autres pays ont refusé de nous prendre comme réfugiés. Et puis on s'est dit qu'au final, notre place était au Liban. Ce Liban pour lequel on s'était battu. Donc nous sommes revenus d'Israël par Nakoura. Et là, les autorités libanaises m'ont arrêté, je suis allé en prison un an et demi, et ensuite je suis sorti. Ils ont considéré que l'ALS était une armée ennemie. C'est leur droit. Si c'est comme ça qu'ils l'interprètent, je n'ai rien à dire. J'ai dû l'accepter et assumer la défaite et les conséquences qui vont avec. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas dormi dans leur maison depuis l'an 2000. Ils sont encore aujourd'hui en Israël. Quant aux gens ici, ils n'osent même pas appeler leur famille. Si les services de renseignement enregistrent un coup de téléphone en Israël, ils les convoquent devant un tribunal militaire. Ils n'osent même pas prendre des nouvelles de leurs proches.
Oui, bonjour Pierre, c'est Nicolas.
Bonjour Nicolas.
On peut se voir à 14h ?
À 14h, oui.
Ok, vers 14h, 14h30, à Ein Ebel, c'est ça ?
À Ein Ebel, à côté de l'église de Sainte-Marie.
D'accord.
Christ Saïdi.
Très bien, bah, okay. on se voit là-bas alors. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Ok.
Alors là, direction Ein Ebel, c'est un village chrétien à l'extrême sud du Liban. On va rencontrer Pierre Asrouni, il est membre du collectif Ha'on Yerjao. En arabe, cela signifie « ils ont le droit de rentrer » et c'est donc un mouvement qui réclame, un peu à l'image de l'amnistie qui a prévalu pour tous les chefs de guerre à la fin de la guerre civile, et bien que leurs proches puissent être blanchis et rentrer au Liban sans poursuite judiciaire. Alors l'ALS a compté des partisans de toutes les confessions et surtout beaucoup de chiites, mais ce sont aujourd'hui principalement les chrétiens qui portent cette cause et qui trouvent quelques relais au sein de leur parti politique.
Ici c'est Ein Ebel, c'est un village chrétien, des gens qui sont passés à Israël en 2000, l'année 2000, durant le retrait des armées israéliennes. Cette région, c'est une région bénie, parce que Jésus-Christ à passer d'ici pour passer vers Cana, Cana de Galilée. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le fête de Pentecôte. On a une tradition ici au village. Tous les gens passent dans la nature, dans la forêt, comme les apôtres.
Et donc là, c'est aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une petite route au sud du Liban, avec les montagnes autour de nous. Oui. Et là, il y a énormément de voitures qui sont garées le long d'une petite route. C'est en fait la célébration de cette fête qui s'appelle Al-Ansala, c'est ça?
Al-Ansala en arabe. C'est le Pentecôte.
Donc là, on arrive en voiture et sur notre droite, il y a dans la forêt énormément de gens, quelques centaines, qui sont assis sur des chaises en plastique avec des barbecues. C'est,
À peu près toute la village se trouve ici.
Donc on va se garer.
Abou Salim, finalement, sauf que je suis un Sahafi et Basme du Futusauro. C'est la frontière. À peu près 10 km, c'est la montagne. Ici, c'est la frontière, au sein d'un grand antenne. La plupart des gens ici ont des amis en Israël, même des parents, des frères, des sœurs.
Parce que là, tous les gens qu'on voit là, c'est des, en fait, c'est des habitants des villages chrétiens de la région.
De Ainebel. C'est le village Ainebel. C'est l'église, oui. C'est Joseph.
يلا خذوا اتاك خذوا
يلا شباب
يلا نسمع تحت اوكي يلا خذوا
انا جف الاخنان
Je m'appelle Joseph El Ach. Je suis de Ainebel. Ma famille est avec les gens qui sont partis en Israël. Ils sont actuellement à Nahriya. C'est à deux pas d'ici, à 2 km de la frontière. Mon père était dans l'armée du sud Liban. S'il avait voulu rentrer ici, il aurait dû aller en prison. Les services de renseignement libanais nous ont toujours eu à l'œil. Ils nous appellent, mènent des enquêtes, nous demandent si on parle avec nos familles. On leur répond que bien sûr que ça nous arrive. Si ma mère qui est en Israël m'appelle, qu'est-ce que je vais faire? Lui dire pourquoi tu m'appelles? Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de parler avec ma mère. Mon père est mort l'année dernière, le jour de Noël. Il a eu un accident, il est tombé dans le coma, il y est resté pendant un mois. On en a informé les autorités ici au Liban. On leur a dit que mon père avait eu un accident et que donc j'allais communiquer avec ma famille sur WhatsApp parce que je voulais savoir ce qu'il s'était passé. Il était en danger. Ils m'ont répondu, « Ok, c'est bien que tu nous aies informés. » Quand mon père est mort, je les ai rappelés. Ils savaient que je devais être en contact avec ma mère, avec mon frère, pour voir comment on allait régler ça, comment on allait s'organiser pour ramener son corps. On a réussi à ramener son corps au bout de 2 semaines. On l'a fait rapatrier par la frontière à Naqoura, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Et on l'a enterré ici à Ainebel. En février, 2 mois plus tard, on est tombé des nues. Les autorités m'ont informé que j'étais convoqué devant le tribunal militaire. Je devais comparaître parce que j'étais entré en contact avec ma famille.
Nous voici à présent dans le tribunal militaire de Beyrouth. Une centaine de personnes assistent à la comparution d'un proche. Certains sont poursuivis pour terrorisme, d'autres pour altercation avec l'armée. Mais on trouve aussi des cas de contact avec l'ennemi, des personnes accusées d'avoir envoyé un message de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, 6 cas sont devant les juges.
Je suis poursuivi parce que j'ai parlé avec mon oncle, il est en Palestine occupée. Je lui ai parlé peut-être une fois ou deux sur un groupe WhatsApp, mais c'est interdit. Les autorités ont donc ouvert une enquête et là on est venu pour clore ce dossier. Pendant l'audience, les juges nous ont demandé « Pourquoi vous avez parlé avec lui? Qu'est-ce qu'il fait en Israël? Quelles sont ses activités ?» Nous, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, on n'entre pas dans ces sujets. Quand on les appelle, c'est juste pour prendre de leurs nouvelles. Et après, on nous convoque devant un tribunal.
Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous venez ici au tribunal? C'est quoi? C'est de la peur?
Non, c'est pas de la peur, mais on veut surtout en finir avec ça, clore ce dossier. C'est déshonorant pour moi et mon mari de se retrouver devant l'État, devant les militaires. C'est pas de la peur, mais maintenant c'est bon, j'espère que c'est terminé.
Comme pour cette femme et sa famille, depuis le début de l'année, une petite centaine de dossiers ont été traités par le tribunal militaire. Mais hors micro, l'un des juges explique qu'après enquête, si ces personnes ne font en effet que parler à leurs proches, les poursuites sont abandonnées. Pour ce militaire, ces comparutions sont donc automatiques. Il ne fait ici qu'appliquer la loi. Elle interdit aux Libanais tout contact avec Israël. Il faut dire que 19 ans après la fin de l'occupation du sud Liban, l'État hébreu reste ici un ennemi à part. Les accrochages à la frontière sont récurrents et la guerre de l'été 2006 reste dans toutes les têtes. 1200 civils avaient péri côté libanais. Autant d'éléments qui font de cette question des ex-collaborateurs et de leurs proches un sujet sensible. De l'autre côté de cette frontière, en Israël justement, se trouveraient encore quelques milliers de Libanais. Depuis le Liban, seule une trentaine de prêtres et de sœurs peuvent leur rendre visite. Ils bénéficient d'un laissez-passer exceptionnel. Charbel Zraïb a œuvré en Israël pendant 5 ans.
Je suis le prêtre de la paroisse Saint-Pierre et Paul, la libanaise maronite. Et aussi j'étais le fils de l'archevêque maronite de la Terre Sainte. J'étais à Haïfa. Et donc Haïfa, c'est un peu le début du nord de la Terre Sainte, disons.
Quelle a été votre mission quand vous étiez là-bas de l'autre côté de la frontière ?
Ma mission, elle est 100% spirituelle. Je prends soin de toute la communauté chrétienne libanaise là-bas. À part la messe chaque jour dans chaque communauté, je prends soin des jeunes, de leur cultiver la religion chrétienne. Et ma mission là-bas aussi, de les apprendre le libanais.
Si on prend l'exemple de ces jeunes, ce sont des Libanais, mais ils vont à l'école
hébraïque. Oui, ils passent dans des écoles officielles là-bas.
Donc israéliennes.
Oui.
Et la langue
La langue primordiale, c'est l'hébreu. À part la langue, je les apprenne leur nationalité. Qui sont les Libanais? Comment ils vivent? Qui aillent la tête levée lorsqu'ils disent que nous sommes des Libanais?
Donc là, aujourd'hui, il est possible pour les Libanais de rentrer à condition d'accepter une éventuelle peine de prison. Les dépouilles peuvent aussi être rapatriées et enterrées au Liban avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce qu'il en est des enfants de Libanais nés en Israël après l'an 2000?
Les enfants qui naissent dans la Terre Sainte sont ils ne prennent pas la nationalité libanaise, ils prennent directement la nationalité israélienne, on dit. Leurs parents aiment beaucoup les enregistrer au Liban, mais ils ne peuvent pas.
Il y a un mouvement aujourd'hui qui s'appelle Ha'on Yeljao, le droit au retour.
Ici au Liban.
Ici au Liban. Oui. Est-ce que, de ce que vous connaissez de la situation là-bas, les gens ont envie de revenir au Liban?
C'est une question de génération. Ceux qui sont entrés au début, les vieux, disons, la partie âgée, oui, elle aime être enterrée ici. Les jeunes, ils aiment savoir c'est quoi le Liban, d'où ils viennent leurs parents, mais ils disent on ne peut pas retourner définitivement au Liban parce que on travaille, on a étudié là-bas.
En Israël.
En Israël, oui. Et ils ont pris leur diplôme là-bas, donc ils ont bien construit leur vie là-bas, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas venir. C'est juste pour la visite, ils disent.
Dans un Liban marqué par des années de guerre avec l'État hébreu, le cas de ces anciens alliés de l'ennemi israélien et de leur famille est tabou. Ce mois-ci, le retour à Beyrouth du responsable du centre de détention du sud occupé de Riyam a suscité un tollé. Surnommé par ses détenus le boucher de Riyam, Amer Fakhouli avait été condamné en son absence à 15 ans de prison pour collaboration avec l'ennemi. Une peine qu'il n'a jamais effectuée et ce n'est finalement que sous la pression de la rue qu'il a été arrêté. Plus largement, cette affaire interroge sur la définition même de la collaboration. Les habitants de ces villages occupés sont-ils prêts à voir revenir et à vivre aux côtés de ces anciens de l'ALS? Quelles sont les conditions d'un retour pour leur famille? Quel statut pour ces enfants nés en dehors du Liban? Autant de questions complexes et encore loin d'être réglées.
Rencontre avec les proches de l'armée du Liban Sud, un grand reportage de Nicolas Feldman à retrouver sur RFI.fr.